La raison pour laquelle je suis là à la demande de Pascal Régnier, responsable de votre association, c'est que le service de neurologie ayant une importante implication dans la recherche clinique et dans le nerf optique, même si les pathologies génétiques du nerf optique ont comme effet un problème de vision et que je ne suis pas ophtalmo, on collabore énormément avec le service d'ophtalmo et les essais cliniques sont organisés, générés, managés dans mon équipe parce qu'on a une grosse expérience. J'ai des attachés de recherche clinique avec lesquels peut-être certains d'entre vous ont été en contact. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on fait la main dans la main avec le service d'ophtalmologie sans aucune difficulté. Voilà, donc l'idée que j'avais aujourd'hui, c'était de vous présenter les réflexions que l'on a sur la piste de l'utilisation de la vitamine B3 sur l'atrophie optique par mutation OPA autosomique dominante. Je ne suis pas certain que ce soit très pertinent si je projette quelque chose. Je pense que la plupart d'entre vous auront du mal à voir quelque chose à l'écran. Donc j'avais fait en sorte d'avoir moi comme pense-bête, d'avoir mis la présentation sur mon ordinateur, donc ça me servira juste de note pour parler. Et peut-être pour commencer, donner 5 minutes la parole à Pascal, puisque l'idée qu'il vous explique, puisque c'est il le dira mieux que moi, l'idée d'utiliser la vitamine B3 dans OP1 vient des travaux de l'équipe et particulièrement de Pascal. Donc je propose qu'il fasse l'introduction et puis j'enchaînerai.
Merci Christophe. Donc effectivement, tout a commencé grâce à l'association. Hein, si vous vous souvenez, il y a 6 ou 7 ans, l'association a mobilisé des patients qui ont accepté de donner un échantillon de sang pour des études de métabolomique, principalement conduites par Cynthia Bocca qui est ici. Et en fait, lorsqu'on a étudié le sang des patients par rapport à des témoins, des sangs des patients porteurs de mutations d'OPA1, on a découvert un certain nombre de signatures moléculaires et parmi toutes ces signatures, il y a quelque chose qui nous a interpellés, c'est la molécule qu'on appelle nicotinamide qui était abaissée chez les patients par rapport aux témoins. Et la nicotinamide, c'est un des composants d'une des vitamines qui s'appelle la vitamine B3. Voilà, on a été un petit peu interpellé là-dessus. Plus tard, lors d'une étude de la même manière sur le glaucome, on est tombé sur le même phénomène, une baisse de cette vitamine chez les patients qui ont un glaucome chronique à angle ouvert, qui est la forme la plus fréquente. Et enfin, lorsqu'on a étudié l'autre grande forme de neuropathie optique héréditaire, la neuropathie optique héréditaire de Leber, là aussi on est tombé sur ce déficit. Donc ça nous a quand même interpellés. Et évidemment, la nicotinamide, c'est une molécule qui permet à la mitochondrie de produire son énergie. Donc, on est depuis longtemps interpellé par ces choses-là. Et surtout, peut-être l'élément le plus déterminant, c'est qu'en 2017, il y a eu un article de la revue Science, la grande revue Science, qui, sur des souris porteuses de glaucome, donc avec une atteinte du nerf optique, ils sont arrivés par une toute autre piste à tester la nicotinamide comme traitement chez ces souris glaucomateuses. Et les résultats étaient tellement spectaculaires que ça a abouti dans une des meilleures revues scientifiques du monde. Donc tous ces éléments-là nous ont conduit à dire qu'il y avait un potentiel intérêt à tester cette molécule chez les patients atteints par les neuropathies optiques héréditaires. Il y a déjà plusieurs essais dans le monde sur le glaucome avec cette molécule, avec déjà 2 publications qui sont sur des petites cohortes qui commencent à montrer quelques effets bénéfiques. Ça reste discret pour le moment. Voilà. Et voilà le tour de la question. Peut-être la spécificité qu'on a à Angers par rapport à d'autres laboratoires ou d'autres centres cliniques, c'est qu'on met beaucoup d'énergie à doser la molécule pour voir si l'effet thérapeutique va être plus important chez les patients qui ont un déficit.
Parfait. Merci Pascal. Donc, cette réflexion, c'est partir vers un essai clinique. Et je vais vous expliquer, peut-être que vous le savez, probablement pas complètement, la complexité aujourd'hui de mener un essai clinique. C'est-à-dire qu'on est à la fois avec des impératifs scientifiques. Parce que je vous rappelle que pour qu'une démarche soit éthique sur le plan de la recherche scientifique, il faut qu'elle soit pertinente. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse la construire scientifiquement pour avoir un résultat, prouver quelque chose. Ce n'est pas éthique de proposer à des patients de rentrer dans un essai qui est mal ficelé et dont à la fin, on ne pourra rien faire parce qu'il est mal ficelé. Donc, on a des exigences scientifiques et vous verrez qu'on a également des exigences administratives d'une lourdeur inouïe. Ce qui fait que monter un essai, c'est non seulement très compliqué, ça nécessite des expertises, des collaborations de nombreux professionnels, médecins, mais également maintenant il y a des métiers de la recherche dans les hôpitaux qui sont indispensables pour nous accompagner. Et moi, dans mon équipe directe sur les maladies génétiques du cerveau, incluant pour moi le nerf optique, j'ai 4 personnes à plein temps qui ne font que ça, nous accompagner. Et c'est vraiment quelque chose qui, voilà, on ne peut pas décider comme ça, comme on le faisait peut-être il y a 20, 25, 30 ans, comme ça, en déjeunant entre collègues, en ayant une bonne idée, et en se disant, bon, ben, on va faire ça sur un coin de table. Et je dirais heureusement, parce que c'est aussi ce qui a entraîné dans l'histoire de la recherche et de la médecine un certain nombre de dérives, mais peut-être comme souvent, on est passé d'un extrême à un autre. Alors avant de venir à ça, on était conscient que monter un essai, c'est des années à préparer, à mettre ça en place. Et on s'est dit, en discutant là, les collègues de l'équipe, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire quand même quelque chose un peu plus vite? On a cette vitamine B3. La vitamine B3, elle existe en pharmacie. Mais pour la prescrire, elle existe pour la carence en vitamine B3. Et on s'est dit, puisqu'on pense qu'un certain nombre de patients atteinte, touchée par une mutation au P1, et peut-être particulièrement, vous savez qu'il y a une minorité, mais une minorité quand même significative de patients qui ont des signes neurologiques associés au P1. On parle d'OP1+. Et on s'est dit, probablement que ça, c'est les formes un peu plus sévères de la maladie, celles qui ont le plus de risques d'avoir une carence identifiable dans le dosage de la vitamine B3. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne pense que seulement les patients qui ont une carence et qui sont sous-dosés pourraient bénéficier de la molécule, mais quelque part, ceux qui en plus sont sous-dosés, là, moi j'ai la possibilité de prescrire, parce que même s'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, dans cette indication spécifique, il y a la carence en général. Le seul problème, c'est qu'un médecin a le droit de prescrire dans ce cadre-là, simplement il n'y a pas de remboursement. Et donc l'idée qu'on a eue et qu'on a mise en place, et on a contacté l'association, c'est un partenariat qui s'est fait avec vous, c'est essayer de se renseigner pour savoir à travers un questionnaire que, alors j'ai les chiffres, je crois qu'il a été envoyé, 22 personnes de l'association ont répondu à ce questionnaire qui était un petit peu, on cherchait à cibler les personnes à qui on pourrait proposer d'essayer de la vitamine B3. Ce n'est pas un médicament extrêmement coûteux, mais quand même, c'est un budget de le prendre. Donc, on avait demandé à l'association si elle accepterait d'aider financièrement. On n'est pas sur des sommes énormes, mais c'est quelques centaines d'euros par-ci, par-là. Sur un budget, ça peut être quand même très contraignant. Et donc, l'association, elle nous avait donné son accord pour soutenir financièrement quelques patients que nous pourrions identifier, carencés en vitamine B3 et auxquels on a fait la prescription. Donc, sur les 22 retours qu'on a eu, 19 patients actuellement ont déjà été vus dans mon service avec une évaluation ophtalmologique et une évaluation neurologique, parce que même, alors ce n'est pas de la recherche, ça, c'est du soin. Les gens ont des carences, je donne la vitamine qui est carencée, je ne fais pas de la recherche. Donc je peux ne pas passer par toutes les étapes sur lesquelles je vais revenir ensuite d'un protocole d'essai. Là, je complémente quelqu'un qui est carencé, je fais mon travail de médecin. C'est pas de travail de recherche. Maintenant, quand on travaille sur des maladies rares, on fait toujours de la recherche avec les patients qu'on suit, parce que les connaissances sont tellement fragmentaires sur les maladies rares c'est pour ça qu'elles sont suivies dans des centres nationaux de référence maladies rares et avec des médecins qui sont toujours dans une démarche d'augmenter les connaissances. Et donc 19 patients ont été vus donc dans mon service pour cela. Et on n'a pas encore reçu tous les dosages, mais par rapport aux dosages que l'on a reçus, on a 3 patients pour lesquels, pour le moment, on a débuté le traitement. Autrement, notre idée, nous travaillons là actuellement sur 2 idées. La première idée, c'était de lancer, parce qu'on y croit vraiment, un vrai essai clinique. Un essai clinique pour valider une molécule, pour avoir une chance d'aller à une autorisation de mise sur le marché, une validation par les autorités du médicament, il faut faire un essai de haut niveau de preuve. Et un essai de haut niveau de preuve, c'est un essai randomisé en double aveugle contre placebo. D'accord? Double aveugle, ça veut dire, alors dans une maladie de la vue, c'est toujours un peu particulier, ça veut dire que le patient est aveugle de son traitement, mais également le médecin. C'est-à-dire que quand je vois, moi, un patient, ou quand l'ophtalmo qui fait l'évaluation de l'acuité visuelle voit un patient, il ne sait pas si le flacon de médicaments qu'on lui remet, c'est le principe actif que l'on cherche à tester, ou si c'est un placebo, c'est-à-dire une gélule qui a exactement la même forme, la même odeur, le même... Voilà, et qui... Et donc, ni l'un ni l'autre ne savent. Parce qu'un patient qui participe à un essai clinique, il espère que ça marche. Donc, forcément, spontanément, il va aller mieux. Dans des choses comme la douleur, l'effet placebo, c'est 40% d'efficacité sur la douleur. Et ça, c'est tout le monde. Hein. Ce n'est pas des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui sont fragiles ou quoi que ce soit. On est tous placebo répondeurs. Donc, c'est très important d'avoir ce contrôle-là. C'est aussi vrai, parce que tout le monde connaît l'effet placebo, mais j'en profite. Est-ce que vous connaissez l'effet nocebo? Ben, l'effet nocebo, c'est que quand on fait cet essai randomisé en double aveugle contre placebo, ben, vous avez la moitié des gens qui ont le principe actif et la moitié qui ont le placebo, mais les investigateurs ne savent pas. Dans un essai, une des choses la plus importante, c'est de regarder tous les effets secondaires. Quand on fait un essai sur 2-3 ans d'une molécule, est-ce que vous savez quel pourcentage de gens qui reçoivent le placebo, c'est-à-dire qui ne reçoivent aucun médicament, décrivent des effets secondaires du médicament? 80%. C'est-à-dire que 80% des gens, et ça c'est encore une fois, c'est tout le monde, hein. Il n'y a pas moi le premier, je serais dans... 80% des gens qui pensent prendre un médicament vont faire des effets secondaires du médicament. Et les effets secondaires, c'est mal de tête, diarrhée, vertige, nausée, vomissement, voilà. Ça... Donc voilà, donc vous voyez que c'est extrêmement important de contrôler, sinon on raconte n'importe quoi. Voilà, et donc on a voulu monter cet essai. Alors c'était un essai, celui qu'on avait envisagé initialement, on a beaucoup travaillé avec Pascal, avec Guy. On a beaucoup hésité entre 2 et 3 ans, parce que c'est ce qui était estimé pour, si vous voulez, un essai. Plus c'est long, plus il y a de patients, plus on a de chances de montrer un effet, mais plus c'est difficile le nombre de patients à obtenir dans des maladies rares, et surtout plus c'est cher. Parce qu'il faut payer le médicament pendant plus longtemps. Paradoxalement, le placebo, ça coûte quasiment pour des molécules comme ça aussi cher que le médicament à fabriquer. Ce n'est pas du tout gratuit, parce qu'il faut tout un circuit de pharmacie absolument identique. Il faut les examens régulièrement faits. Chaque examen doit être payé par le protocole, parce qu'aujourd'hui, avec l'état des hôpitaux, vous imaginez bien que nos directeurs ne nous laissent pas travailler gratuitement pour faire... Donc, il faut financer absolument tout. Et donc un essai de cette durée avec, alors je reprends le nombre de patients, je crois qu'on était à 140, hein, c'était de cette évaluation-là au niveau, donc 70 qui auraient eu le placebo, 70 le principe actif. Les évaluations, c'est bien sûr des évaluations de choses relativement simples comme l'acuité visuelle, mais j'ai entendu tout à l'heure vous parler de la question du contraste des couleurs qui est effectivement très sensible dans la maladie et qui peut être... un endpoint à tester intéressant, on cherche des critères intéressants, mais souvent les critères, avant de gagner un point significatif sur une échelle d'acuité visuelle, c'est quand même quelque chose de pas très sensible. Et donc on essaye d'avoir des évaluations aussi plus... comme l'OCT que vous connaissez, hein, qui est un examen, la tomographie en cohérence optique qui permet voilà, de mesurer le nerf optique. On a aussi, et ça on est en train de travailler dessus, l'électrorétinogramme. Et je sais notamment dans ce que m'a dit Pascal, on est en train d'acquérir un appareil exprès pour faire de la recherche, avec là aussi je crois le soutien de l'association et qui va participer à acquérir ce matériel vraiment orienté recherche, là pas du tout pour la clinique, pour faire des essais dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez une idée, je vous demande un ordre d'idée, de combien coûte, qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve comme argent pour faire un essai de cette nature-là?
Je crois qu'il avait dit 1 million, plus d'1 million d'euros.
Ouais, on est. Alors j'étais un tout petit peu en dessous. Voilà, vous êtes. J'étais un petit peu en dessous. On va dire, j'avais en tête dans les discussions 700, 800 000 euros. Hein. Il me semble que c'est ça qu'on avait déposé finalement quand on était dans ces eaux-là. Mais c'était. Je pense que c'est parce qu'on avait ramené à 2 ans. Et à 2 ans, on était effectivement entre 700 et 800 000 euros. Et effectivement, le chiffre initial, quand on avait travaillé sur 3 ans, on dépassait le 1 million d'euros. Il existe quelques appels d'offres, notamment ce qu'on appelle le PHRC, le Programme Hospitalier de Recherche Clinique, qui permet d'avoir des financements publics pour ce type d'essai. On a déposé un projet là-dessus. C'est des projets très concurrentiels. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 15% des projets qui obtiennent un financement quand ils sont déposés par des médecins. Donc on n'a pas obtenu ce financement. On a déposé le projet, il a été écrit, il a été entièrement fait. On n'a pas obtenu le financement. Je vous avoue qu'aujourd'hui, avec la preuve scientifique, pas la preuve, mais les arguments scientifiques que l'on a assez forts, porté par nos équipes de recherche sur Angers, passer de ça à obtenir 1 million pour donner de la vitamine à des gens qui sont malvoyants, je pense que le pas était un peu important. Ça valait le coup de le tenter. Je vous avoue que moi, ça n'a pas été une surprise absolue qu'on n'obtienne pas, vu le niveau de concurrence, hein, parce que les dossiers qui sont présentés là, c'est tous des dossiers présentés par des équipes extrêmement. Voilà, c'est pas des, j'allais dire, c'est pas des charlots qui vont chercher ces financements parce que c'est un travail, c'est des mois de travail, c'est enfin, des mois en années presque qui se comptent, avec des réunions, avec des 10, 12 personnes, plusieurs professeurs, autres chercheurs autour de la table, avec ces personnels de recherche clinique. Voilà, il y a un énorme travail derrière et on a 15% de résultats. Et donc l'idée que l'on a, on essaiera de repartir pour obtenir des financements à cette hauteur-là. On peut essayer aussi de discuter avec des partenaires industriels, pharmaceutiques qui pourraient être intéressés pour nous accompagner là-dedans. Mais là, ce qu'on est en train de monter et qui pourra aller quand même beaucoup plus vite, c'est un essai moins ambitieux. C'est-à-dire ce qu'on appelle un essai de safety. Un essai, il faut. Pour dire qu'un essai marche ou pas, le problème, c'est que c'est de la statistique, les essais, les résultats qu'on a. On est obligé de mettre ce qu'on appelle un endpoint, c'est-à-dire un point qu'on veut valider principal, qui permettra de dire que l'essai a marché ou pas. Si ce premier point est négatif, même si après on a plein de données très intéressantes, on n'a pas le droit de les utiliser. Parce que c'est un essai négatif. En tout cas, pas pour valider un médicament. Pour réfléchir, bien sûr, qu'on se sert de ses connaissances. Et donc, là, on se dit, on va faire un essai où on va dire, mais finalement, la vitamine B3, en public européen, grand public, etc. Avant de vouloir la donner en masse à un grand nombre de personnes, il faut peut-être qu'on voit si elle est bien tolérée, parce que les doses qu'on veut donner sont quand même des doses importantes. Donc on va vérifier qu'ils sont en dessous des doses toxiques connues, mais ça mérite quand même d'être testé. Et là, donc ce qu'on proposerait, c'est un essai en ouvert, c'est-à-dire que le médecin, le patient, il n'y a pas de placebo. Tous les patients qui rentrent dans l'essai reçoivent de la vitamine B3. Nous, on dit que l'essai, on le fait pour surveiller la tolérance, les fameux effets secondaires, parce qu'on en aura, même si c'est très bien toléré, puisque 80%, donc on sait qu'on a aura des effets secondaires qui apparaîtront, mais ça permet de bien les identifier et de réfléchir après. Et puis, ça nous permet, une fois qu'on a dit qu'on le faisait pour ça, de voir ce qui se passe. Et c'est sûr qu'on sait que tout ce qui est humain dépendant, c'est compliqué et c'est pas très sensible. Mais l'idée, c'est d'utiliser justement l'électrorétinogramme dont je parlais là, dont on a des raisons de penser que c'est un outil très fin, pour essayer de voir si 6 mois, 1 an de traitement de vitamine B3 ont fait changer quelque chose sur un enregistrement électrique. Parce que autant on peut se dire que pour ce qui est de la perception visuelle, cet effet placebo, aussi étonnant que ça puisse paraître, alors, pas si on avait des résultats spectaculaires, mais on n'est pas en train d'espérer faire recouvrer la vue. Mais si on arrive à avoir un tout petit résultat sur le plan des échelles visuelles, on nous dira probablement que c'est l'effet placebo. L'effet placebo sur l'enregistrement électrique de la rétine et du nerf optique, c'est quand même moins probable. Et c'est pour ça que voilà. Et là, cet essai-là, l'avantage, c'est qu'on est sur des coûts qui n'ont rien à voir et qui sont beaucoup plus abordables. et qui notamment, et je sais qu'il y a eu des discussions avec Pascal, avec des soutiens financiers de l'association, avec éventuellement des discussions qu'on peut avoir avec des partenaires industriels, on pense être capable de monter cet essai dans les mois qui viennent à Angers. Donc voilà. Dernière chose pour être message à passer, puis je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Quand il y a un essai, on doit mettre des critères d'inclusion. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, et ça peut, c'est pour ça que j'en parle, ça peut paraître choquant, il y a des questions d'âge. On ne prend pas les patients mineurs dans un essai clinique, sauf bien sûr des essais qui ne peuvent être faits que chez les enfants. Et si vous voulez traiter une maladie de l'enfant de 3 ans et qui n'existe pas à l'âge adulte, vous ne pouvez pas le tester chez des adultes. Mais les lois éthiques mondiales, hein, qui sont venues, l'histoire de l'éthique médicale, des essais cliniques à partir du code de Nuremberg et de toutes les déclarations qu'il y a eu, vous entendez parler de déclarations d'Helsinki et autres choses, interdisent de faire des essais chez les mineurs si ces essais peuvent aussi bien être menés chez les majeurs. On le fait d'abord chez les majeurs, parce que comme ça, s'il y a un risque inconnu, imprévisible, on le voit chez les majeurs. Par contre, ensuite, si le médicament est validé chez les majeurs, là, on est autorisé à faire l'essai pour en faire profiter les enfants, si possible. Voilà, donc il y a des critères comme ça. Il y a des critères, on aura probablement des critères, par exemple, par rapport, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous sont sous idébenone, raxone, traitement comme ça. Étant que ce n'est pas un traitement qui est validé dans cette indication d'OP1, on a le droit de l'exclure comme critère pour les patients. Mais ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si il y a des périodes de wash-out. C'est-à-dire que si un patient voulait rentrer et pouvait rentrer dans un essai clinique comme cela, on lui demandera simplement le temps de rentrer, de faire l'inclusion, tout ça, ça prend plusieurs semaines, mois. On met par exemple une période de 3 mois d'arrêter le traitement en question, ce qui permet de faire l'essai. Donc voilà, donc on a des critères comme ça, d'âge, on va aussi, on prend en général des gens qui bien sûr ont une basse vision, une mauvaise vision, mais par contre, il peut y avoir aussi, ça c'est les ophtalmos qui discutent avec nous, des seuils trop bas, parce que quelque part, si on est trop bas, on peut plus, on n'a plus d'espoir de voir quelque chose, si vous voulez bouger. Ce qui ne veut pas dire que ces patients-là ne pourront pas bénéficier du traitement quand il sera validé. Mais on a besoin, si vous voulez, de ce qu'on appelle un groupe homogène de patients. C'est-à-dire que si on veut comparer ce qui se passe, on a intérêt que notre petite poule de patients se ressemble le plus possible pour espérer que l'efficacité soit la plus proche sur tous les patients pour qu'on puisse la voir statistiquement. N'oubliez pas que l'objectif d'un essai, c'est compliqué à... Pour nous, ce n'est pas de soigner les patients qui sont dans l'essai, c'est de soigner tous les autres. C'est donc de prouver que le médicament marche. Donc c'est pour ça que parfois c'est compliqué quand on est dans un essai, quand on fait des inclusions. Pour nous, parfois, c'est quand des patients espèrent beaucoup des essais, c'est compliqué de leur dire parce que pour un point sur une échelle, ils ne peuvent pas rentrer alors qu'ils ont un espoir majeur. Mais on a le devoir par rapport aux autres patients. À toutes les familles, après, on a le devoir d'avoir cette exigence. Nous, spontanément, on aurait envie de changer. On commence à trafiquer la recherche, ça commence comme ça, le trafic. Et deux, éthiquement, ce n'est pas acceptable par rapport aux autres patients et aux familles. Parce qu'on risque de pourrir l'étude et pas de prouver le résultat, et donc de ne pas donner accès à tout le monde aux médicaments pour faire, entre guillemets, plaisir à une personne. Donc voilà, c'est un peu cette particularité. Voilà, je compte m'arrêter là, sauf si Pascal, tu penses qu'il y a une chose importante que je n'ai pas dite, mais je suis vraiment à votre disposition pour des questions et pour échanger si vous le souhaitez.